Un vent souffle sur l'île et Dieu. Retrouvez Pascal dans l'émission Varangi. Viking, celtique, pagan, gothique, métal symphonique, médiéval. Sur Neptune FM 91.9, tous les samedis matins, de 11h à midi.
Bonjour à tous, vos animateurs Pascal et prêtresse Sexen d'Avalon. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Varanger. Émission ambiance viking, gothique, métal symphonique, celtique, sans oublier les chroniques, la culture, de la musique médiévale, folk musique du monde, et j'en passe. D'ailleurs, à 11h20, votre rendez-vous, la chronique mensuelle avec prêtresse Exen d'Avalon, les elfes et Samen. Et nous commencerons notre émission avec Alina de Brosseliande avec son nouveau clip L'incantation enchantée. Petit souci, excusez-moi. Eh bien, on repart avec Evanescence. On part dans le monde gothique. Eh oui, ça commence mal ce matin, mais ça arrive.
Open doors, leading you
Voilà, Alina de Brosseliande, la cantation enchantée. Continue avec Faune, avec le morceau qui s'appelle Halloween. Ça tombe bien. C'est un groupe pagan. Mmh.
darkest night and shiny moon. Strength now our song and tune.
Holy fire, blessed water, sky to loin, sons and daughters.
Standing in the moonlight there, with stars under the horn and hair.
Holy fire, blessed water, sky to loin, sons and daughters.
And through the misty night forlorn, shines its crown from horn.
Holy fire, blessed water, sky to loin, sons and daughters.
The green lord horned on this Hamain, help us to be born again.
Holy fire, blessed water, sky the loyal sons and daughters.
Allez, un peu de culture maintenant. En Vendée, un dracar, plutôt un landscap qu'on dit plutôt. Hein. C'est pas un dracar, c'est landscap dans l'histoire. Réplique du Gostad va être construit au Sable d'Olonne. Des passionnés d'histoire vikings se sont lancés le défi de construire un landscap au Sable d'Olonne. Réplique construit en 890. Et le chantier va débuter en fin d'année. Et oui, un défi fou pour le réussir. Philippe Monaudet et ses amis viennent de créer une association, se sont entourés de passionnés, prêts à relever les manches pour que naisse au Sable d'Olonne la réplique du Gostag datant de 890. J'ai toujours été passionné d'histoire, notamment la période viking. J'ai eu la chance de jeune de visiter le musée des navires vikings du Roskald au Danemark. Et l'histoire viking dans les pays de l'Eau-et-Loire est avérée et conséquente. Philippe cite l'île batailleuse de Nantes, la découverte de pièces d'un moulin avant viking dans les marais d'Olonne, ou les ancres marines trouvées à Bourgneuf-en-Ré. Le viking était bien présent sur nos contrées. Voilà. Eh bien, nous, on va écouter de la musique viking avec Squall.
Stumpf und Mund.
suivre nos amis Red Cardel avec la chanson Voir.
Ailleurs où personne ne sait, où les hommes sont si loin qu'on finit par y croire. Du moment que tu me donnes à voir, sous les voiles où se lovent les lignes de la danse naît l'instinct, et l'instant s'y dessine. Je n'ai rien eu à te dire depuis ce jour incertain où, couvert des morsures de leur rire, j'ai trouvé un chemin. Du moment que tu me donnes à voir l'étincelle qui fait naître l'envie, l'éphémère innocence, l'infiniment petit. Ce moment m'a semblé idéal et nous l'appelons utopie, quand flatté du fou rire de la femme fatale, l'animal s'enfuit.
Amis Red Cardel, qu'on aura le plaisir d'avoir bientôt sur notre île au mois de mars. À ne pas louper! Ça va être l'heure de retrouver Patrice Exen dans sa nouvelle chronique sur les elfes et sur Samhain.
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Pascal. J'espère que vous allez bien. Eh ben, je suis contente de vous retrouver en ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que je vais parler dans ma chronique? Eh ben, on va parler des elfes en première partie, parce qu'il y a beaucoup à dire, malgré que ce sont des petits êtres mystérieux. Et nous allons parler du sabbat de la Samhain en passant par Halloween. Voilà. Donc, je vous expliquerai. Et comment je célèbre, ce que c'est vraiment. On va commencer par les elfes. Partie 1. Introduction. Alors, les elfes ont une particularité qui sont difficiles à décrire et surtout à approcher, car c'est des êtres qui sont très mystérieux aux yeux de l'homme et c'est le choix qu'ils ont fait. Donc je vous ferai plusieurs présentations des elfes, car il en existe plusieurs sortes. Donc je le ferai en deux parties, parce que il y a beaucoup à dire, malgré que ce soit très difficile de les approcher en forêt, dans les contrées. Donc on dit des elfes qui seraient attirants, gracieux et envoûtants, et voire même très fragiles. Ils sont très très légers. Leur peau est très très pâle. On a, je dirais, plus que blanc, c'est pratiquement transparent. Leurs cheveux seraient noirs, gris, blonds, et je dirais même blond blanc. Leurs oreilles hautes et pointues, et leurs yeux souvent verts. Mais ils sont imberbes et glabres. Leur tenue préférée, confortable et souple, pour se déplacer, pour travailler. Leur couleur préférée est dans les tons pastels, c'est-à-dire dans le bleu et le vert. Et ce sont des êtres tellement souples qui se déplacent assez rapidement, que voire même leurs pieds ne touchent à peine le sol. Ils ont une vue assez double. Quand je dis double, en fait, ils voient deux fois plus loin que les humains dans les conditions très sombres, c'est-à-dire nous, on aurait besoin d'une lampe de poche quand on part en nocturne en forêt, alors que eux, non. Pratiquement, je dirais, ils auraient presque les yeux de chat, en quelque sorte. Ils peuvent même distinguer les couleurs et les détails et peuvent parfaitement repérer des passages secrets que nous, les humains, on ne pourrait même pas voir. Donc, il y a une perception, je dirais presque, si j'analyse ce que je vous dis, comme les chats. Eux, ils peuvent voir dans le noir que nous, non. On est obligé d'allumer la lumière. Les elfes, ils deviennent adultes vers l'âge de 100 ans. Il faut savoir qu'ils peuvent vivre et dépasser l'âge de 500 ans. Pour vous dire. Ils ont une particularité par rapport à nous, les humains. Ils ne dorment pas, mais ils peuvent entrer en transe. C'est ce qu'on appelle une transe chez eux. Ils peuvent entrer dans une méditation très profonde qui pourrait durer minimum 4 heures et maximum 8 heures. Comme nous, des fois, on dort entre 4 et 8 heures de sommeil. Ça dépend de chacun, comme on est fait et selon nos besoins. Ce sont des êtres curieux, non cupides, pas comme l'humain. Par contre, ils peuvent se fixer des objectifs, que ce soit une mission risquée ou apprendre une nouvelle forme d'expression artistique. Parce qu'à la base, ce sont des êtres artistiques. Ils peuvent faire preuve d'une concentration et déterminés. Ils sont très déterminés dans ce qu'ils font par rapport à nous. Comme quoi, hein. Les elfes, bien sûr, ils aiment la liberté, la diversité et l'expression personnelle. Par contre, ce sont des êtres qui se font peu d'amis, voire même très peu d'ennemis. Par contre, ils n'oublient pas le mal qu'on peut leur faire. Ils sont très susceptibles, attention. Ils peuvent répondre aux insultes par le plus grand des mépris. Et moi, je sais ce que je fais personnellement, je suis comme eux, je réponds par le plus grand des mépris, par mon silence. Et aussi, ils aiment bien se venger. Alors, je vous déconseille de les vexer. Je vous le déconseille. Voilà. Et ils nous considèrent un peu rustres, nous, les humains. Comment ils vivent? Eh bien, ils vivent en clans qui regroupent minimum 200 individus. Et ils vivent dans des villages cachés qui mêlent aux arbres sans nuire. À la forêt, évidemment. Ils vivent de chasse, de cueillette et d'agriculture. Ils possèdent des dons qui sont spécifiques à eux, on en parlera en deuxième partie, qui leur permettent de se nourrir et cultiver sur de grandes parcelles. Alors, il existe plusieurs sortes d'elfes. Alors, c'est selon les traditions nordiques. Alors, quand je dis les traditions nordiques, il y a en Allemagne, anglo-saxon et les Celtes. Chez les Nordiques, selon Edda, alors Edda, c'est un recueil ancien sacré qui existerait deux sortes d'elfes, l'elfe noir, l'elfe de lumière. L'elfe de lumière, c'est un elfe blanc qui évoluerait librement au grand jour et qui serait gai et bienveillant. Et il y aurait des elfes noirs qu'on dit elfes des ténèbres, lugubres, maléfiques, qui eux vivent dans des profondeurs de la terre, que l'on peut appeler aussi, alors je vais essayer de vous le dire, c'est un nom allemand, Svartalheim. Et malheureusement, ils sont souvent confondus avec nos gnomes ou les nains qui, eux aussi, travaillent dans le profondeur de la terre. En Allemagne, il est dit une légende que l'agriculteur confie les graines enfouies dans le sol non germé aux elfes des profondeurs de la terre. Il les appelle Schwarz Elfen. Et que quand la plante germe, elle sort de la terre pour s'élever vers le ciel, elle passerait sous la protection des elfes de lumière. En clair, l'elfe de lumière et l'elfe noir travaillent en équipe. Et aussi, ce qu'ils aiment, les elfes, quels qu'ils soient, si vous avez la chance de les approcher, offrez-leur du lait et du miel. Ils sont très friands. Il y a des traditions que les elfes pourraient faire partie des élémentaux de l'air et les chiffres. Je pense qu'on doit les confondre avec eux, ils se ressemblent. Et pour conclure, en fait, les esprits des elfes, ils ont une force de la nature qui réside dans un monde bien précis. Alors, dans Lakfheim, qui est situé entre le Midgard, c'est-à-dire, je vous explique, entre le royaume des hommes et l'Asgard, le monde des dieux. Et leur rôle est celui des médiateurs entre le divin et le physique. On va parler des Celtes maintenant. On peut les retrouver plus ou moins la même chose, hein, c'est à peu près pareil. Symboliquement, ils sont dans une forme d'entité supérieure qui ne forme que des structures sociales qui pourraient résider dans les bois ou dans les contrées éloignées de l'homme. Hein. C'est-à-dire qu'ils vivent vraiment dans un très reculé, ils font tout pour pas être en approche avec nous. Ils ont bien raison. Et dans le système gallois, il existe 7 états d'être qui sont présentés par des seigneurs, dont le suprême seigneur des elfes, le roi Oberon. Leur 7 identités élevées astralement. Leur ancienneté par rapport aux hommes et leur affinité sont innées pour la nature et ainsi la connaissance des lois universelles et de la sagesse. Voilà pour les elfes. Maintenant, on va parler de la chamane, mais je vais commencer par Halloween. Je vais vous expliquer ce que c'est Halloween. Alors, Halloween, à la base, c'était une fête celte qui se faisait en Écosse, en Irlande principalement, qui a été, après, qui a dérivé aux États-Unis, en Amérique, et qui est venue chez nous en France. Qu'on appelle maintenant la fête de la chamane, le dieu des morts. On en parlera quand je vais vous parler de la chamane. Voilà. On pensait que pendant cette nuit-là, les esprits revenaient hanter le monde des vivants. On allumait alors des feux et des lanternes. La dernière fois, je vous ai lu un poème, Jack la lanterne. Voilà. C'est une fête qui est devenue européenne, où les enfants se déguisent et qui viennent chercher les bonbons chez les personnes. Sinon, ils leur jettent des œufs et des sorts. Voilà. Maintenant, je vais vous dire ce que c'est la chamane. Donc, on va fêter le 31 octobre prochain. Alors, c'est le passage de la saison ensoleillée à la saison la plus froide. C'est une tradition celtique. Qu'on appelle aussi la Trinox Saloni. Alors cette fête, pour les druides, elle peut durer 7 jours. Pour les sorcières, prêtresses d'Avalon, elle peut durer entre 2 et 3 jours, voire même tout le mois de novembre. Hein. Pour les prêtresses, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour célébrer la chamane? Moi, en général, c'est un rituel que j'ai mélangé entre la tradition d'Avalon et la tradition de la Wicca. Moi, je prends deux bougies violettes, deux bougies noires, un petit chaudron magique, avec une carte de mon choix qui signifiera le renouveau, la renaissance, qui est la carte de la mort. Il faut que vous sachiez, dans le tarot, il y a la carte de la mort, ça ne veut pas dire la mort, ça veut dire la renaissance, le renouveau. D'accord ? Aussi, on va préparer un petit côté où on va mettre les photos de nos défunts proches, nos animaux. On va le mettre une petite assiette avec des bougies blanches, c'est-à-dire que j'ai bougies blanches, vous pouvez mettre des bougies chauffe-plat, une boisson, un verre d'eau, une assiette en offrande un gâteau, du pain, un dessert que vous préparez. Et à partir de là, il y a trois bougies noires. Alors dans les bougies noires, il y aura un souhait à faire. Il y aura d'abord purifier votre hôtel, purifier votre foyer, les personnes qui y vivent, ainsi que vos animaux de compagnie, ça va de soi. C'est ce qu'on appelle nettoyage et purification avec une incantation. Et avec la bougie violette, on va préparer le vœu qu'on voudra faire pour la nouvelle année. C'est-à-dire que là, la Saman, pour les sorciers et les sorcières, on prépare le nouvel an des sorciers et des sorcières. Les druides, les druidesses, les prêtres et les prêtresses avant. Voilà. Et le lendemain, je fais personnellement une prière, une bénédiction pour mes défunts. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Par contre, le mois prochain, je vous ferai une chronique pour les elfes partie 2. Pas de sabbat, parce que le prochain sabbat, ça sera en décembre, Yule. Donc, ça sera le 21 décembre. Par contre, je vous lirai un texte, comme on sera plein mois de novembre, un texte qui rend hommage à nos aïeuls qui ont été brûlés sur le bûcher lors de l'acquisition. Et comme on est en pleine période Saman, les défunts, ça fera plaisir de vous lire tout ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment ensemble et que je vous aurai appris quelque chose. Voilà. À bientôt, je vous souhaite bon samedi et puis une bonne semaine. Voilà.
Merci beaucoup, prêtresse Sexen, pour cette chronique bien intéressante. Nous allons continuer en musique et en chanson avec Glenmore. Et oui, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas écouté. Glenmore qui nous interprète « Vivre ».
Mets tes embrumes, deux doigts de sainteté. Saupoudrez le tout d'une once de vérole et sauce faite, ajoutez deux gouttes de pitié pour une pauvre cité qui se dit métropole. Ne pas oublier les tonnes de prétentions qui font d'un cimetière une capitale. L'Hexagone a ses morts et beaucoup sont bretons. Le 11 novembre, chez nous, est fête nationale. J'accuse tous ces temps de vaines glorioles d'être culottes macabres et camailles de religion. J'accuse les églises qui roulent tout l'or du pactole de givrer tout homme et d'en faire un couillon. Et tous ces bastions que la bêtise seule habille attendent encore ce jour. La prise de la Bastille. Vivre des temps d'inquiétude, chanter les dieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes des villes et des champs. Et des monts perdus. lundi. C'était un lundi de douce Irlande, une terre couchée sous une toison d'aubépine, des temps et des temps de folles sarabandes où s'églissaient parfois le fusil et la famine. C'était l'aurore aux mille trompettes de guerre, la piste des loups croisait la pâture, une armée de pouilles où les matrones sont viandières, c'était l'aube du soldat, du traître, du parjure. L'esclave du roi n'est que mendiant en république, les barons du régime boivent aux coupes de Versailles, ils ont la tripe royale et le discours démocratique, à chaque coup le croquant le reste de la canaille. À toute armée de gueux, il fallait une simèse, et les monts de chez nous attendent encore leurs Pâques irlandaises. Vivre des temps d'inquiétude, chanter les dieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes, des villes et des champs et des monts perdus. La glèbe est douce au pas du paysan. Pour 3 sous, elle te dérationalise. Ça te fout la chiasse au premier temps et te voûte le dos en tour de bise. Ça t'accroche aux doigts de fumure, te fait la gueule sale et les pieds puants, et la tentouse bourgeoise qui chante la nature n'a jamais vu de près le cul d'un manant. Ils sont de même race que leurs chevaux, bras de sollicitude et des mains de bourreaux. Ils sont dans les yeux 3 000 ans de silence et sur la peau 3 000 ans de tempête, mais pour un seul épi que l'été met en fête, ils parlent de silos, de moissons, d'abondance. Vivre des temps d'inquiétude, chanter les dieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes, des villes et des champs et des monts perdu. La cité appartient au négoce, au malfa. La taverne brigande vend la pute aux bourgeois. La faune des nuits réhabille ses dames. On y parle d'alcôve et de touffe poétique. Monsieur Utérin, que le démon de l'âge habite, ajoute au plat du jour les hanches de madame. Julot l'arquebuse, qui ne sut jamais les manières, étale dans un bar la cramouille de sa rombière. C'est l'heure où s'échappe des demeures conventuelles le chant du sieur abbé que tutoie une pucelle. Imite le temps chanclos les ragoûts du carême. La cité met en sauce les Pâques républicaines. Une ronde d'honneur, messieurs de la Carmagnole. Les nuits de mai attendent encore les fèvres espagnoles. Vivre des temps d'inquiétude, chanter les dieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes, des villes et des champs et des monts perdus.
Notre ami Bon, je serai, excusez-moi, Glenmore. Eh oui, c'est une très très belle chanson de vérité. Frappante. Voilà, eh bien nous allons parler maintenant de un hommage à Andrea Meyer, Nebelangen, chanteuse, grande chanteuse pagan folk. Eh oui, décédée lors de l'attentat du 13 octobre 2021 en Norvège. Elle faisait partie des 5 victimes. Donc, un grand hommage à cette grande chanteuse qui est partie bien trop jeune. Alors, on va écouter un morceau.
« misty night. A black moon is preparing my mind. Out here, I seek a shrine.
Le groupe s'appelle Agalaz Rune et Danse. Nous continuerons avec D'Artagnan, en passant dans le médiéval.
Ich komm zu dir bei Nacht, wir gehen fort an jenen Ort, wo Liebesfreude lacht.
Im Grünen dort, beim alten Baume, treff ich dich wie erst im Traum bei Mondenschein. Da halt ich meine Liebe nicht im Traum.
Und wenn der Morgen graut, dann bist du meine Braut. Ja, dich vergess ich nie,
du mein Mädchen, meine Solie.
Und wenn der Morgen graut, meine Braut, ja, dich vergess ich nie,
meine Liebste, meine Jolie.
Ganz heimlich wie
der Wind, bevor der Tag beginnt. Laufe schnell nach Hause, schöne Frau, barfuß durch den Morgentau. Gegangen fort für immer da, nun ist es Jahre her, doch sehnt mein Herz sich sehr.
So zieh ich durch die Lande wild, such was meine Sehnsucht stillt, vielleicht ja heute Nacht, drum nimm dich meine Nacht.
Allez, on va parler un peu de culture viking. Ah, vous savez que l'Amérique a été découverte par les Vikings 400 ans avant Christophe Colomb, et c'est une tempête solaire qui permet de l'affirmer. Le doute était permis depuis des découvertes archéologiques d'il y a quelques décennies. Désormais, c'est un fait. La présence des Vikings en Amérique du Nord a été confirmée. C'est quand même pas rien, 400 ans. Avant l'arrivée de ce monsieur Christophe Colomb, il va falloir revoir tous les manuels scolaires et remettre à jour toutes nos certitudes sur la découverte des Amériques. Jusqu'ici, l'histoire apprenait à tous les écoliers du monde que Christophe Colomb, financé par la reine Isabelle d'Espagne, avait découvert l'Amérique en 1492, alors qu'il explorait une nouvelle voie maritime vers les Indes à travers l'océan Atlantique. Et depuis des fouilles archéologiques datant de 50 ans en arrière, le doute était permis sur l'identité des premiers Européens avoir foulé le sol américain. En effet, des traces de vikings avaient été repérées dans le nord et du Canada, notamment grâce à des objets en bois. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Une étude publiée dans la revue Nature par l'université de Groningen, Pays-Bas, le tour du monde ce mercredi 20 octobre, elle indique que des chercheurs ont trouvé les moyens de confirmer la présence de ces vikings à Terre-Neuve, bien plus au sud de Christophe Colomb. Une tempête solaire décisive, et c'est le soleil qui a éclairé les chercheurs, en effet. Une tempête solaire datant de 993 ans après Jésus-Christ a libéré une énorme impulsion des rayonnements qui a été absorbée et stockée par les arbres sur toute la Terre. Cet événement solaire qui s'avérait décisif peut déterminer l'année exacte où les Vikings étaient présents dans les Amériques. Voilà pour cette petite histoire. Donc vous voyez, voilà ce que vous apprenez aujourd'hui. Eh bien, nous allons continuer avec de la musique viking. Et oui, bientôt l'émission va se terminer avec Skald.
Ich träum in Umbera, mir misbrüllig.
Voilà, l'émission se termine. Pascal et prêtresse Sexène d'Avalon vous souhaite un très bon samedi. On vous dit Kenavo Avéchal, school. Et portez-vous bien.
Neptune FM.